Chapitre 3. Un monde encore plus nouveau. Ce monde encore plus nouveau, c'était la fabrique, de grands bâtiments gris à trois étages, tout au bord de la rivière qui en lavait les murs et qui travaillait, elle aussi, à la fabrication des chapeaux de paille, en remplissant des réservoirs, en actionnant des moteurs. De petites galeries en bois, servant de séchoir ou de passage d'un bâtiment à l'autre, surplombaient l'eau. L'entrée des ateliers était de l'autre côté, une large grille et une vaste cour sablée, très propre, enfermée d'un haut mur. Et tout au long de ce mur s'étendaient des bancs sur lesquels ouvriers et ouvrières venaient s'asseoir à midi quand il faisait beau pour prendre leur modeste repas. En face de la grille d'entrée, à l'autre extrémité de la cour, une seconde grille donnait accès à des pelouses bien tenues, semées de massifs d'arbustes élégants. Des allées de fin gravier bleu y serpentaient, se dirigeant comme à loisir, sans se presser, les unes vers le pavillon à un seul étage, couvert en ardoise, où logeaient les bureaux, les autres vers la jolie maison du directeur, qu'un rideau de trembles et de peupliers masquait presque complètement. Les bureaux, quel mot neuf pour Ferdine, et quelle chose étrange de pénétrer dans ces lieux mystérieux et de se dire « Là sera ma vie désormais ». Madame la douairière Miserlet était certainement une vieille dame originale. Elle aimait la mélancolie, oui, elle la préférait à la gaieté. Le récit d'une affreuse catastrophe la remplissait de satisfaction lugubre. Elle soupirait comme d'autres gens sourient, par préférence. Dans sa chambre, elle tenait son mouchoir sur ses yeux pendant des heures, plongée dans de tristes souvenirs, disait-elle. On eût mieux aimé croire qu'elle dormait, ce qui était probable après tout. Elle ne lisait que des poètes et elle écrivait en vers, quelquefois même elle parlait en vers sans s'en apercevoir. Une autre de ces idiosyncrasies, ainsi s'exprimait le docteur qui venait l'ausculter chaque semaine, consistait à ne point vouloir faire de réparation. Chapeau pointu, la demeure de son enfance s'écroulait moellon après moellon, les gouttières se décellaient, l'aile gauche n'était plus qu'un monceau de décombres où foisonnaient les giroflées. Dans l'aile droite, la cheminée de la cuisine, toute lézardée, avait déjà attiré les regards et les menaces de la commission d'édilité communale. Madame Miserlet ne voulait point de maçon chez elle, point de peintre, point de poêlier, ni de couvreur. « La vieille tour durera bien autant que moi, disait-elle. Plus tard, Louise fera ce qu'elle voudra. » Et ce n'était pas l'avarice qui la retenait. Au contraire, Madame Miserlet, à certaines dates anniversaires et pour honorer ses parents disparus, aspergeait le pays d'une pluie d'aumônes. Trop abondante, jetée de trop haut, sans discernement, et par conséquent peu utile. Mais nul ne pouvait prétendre que Madame la douairière Miserlet fût avare. Elle comblait Louise de présents et d'argent de poche en attendant l'âge de majorité qui ferait de cette pauvre petite effarouchée un grand capitaliste. Et Madame Miserlet était douce, facile aux attendrissements, nullement exigeante. Elle s'intéressait à toutes les histoires du voisinage, pourvu que ces histoires fussent un peu tristes. Elle pleurait sur les morts subites et les amours contrariés, sur les ouvriers sans travail, sur les familles distinguées qui ont des revers. Elle avait accueilli Ferdine avec la plus tendre commisération et ne s'arrêtait plus de soupirer quand elle la regardait. Si jeune, bien élevée et obligée de gagner sa vie dans une position subalterne, disait l'excellente dame en passant son mouchoir sur ses yeux tandis que Françoise la coiffait. « Vous verrez, Françoise, qu'elle ne pourra, malgré son courage, supporter une telle déchéance. Elle tombera malade. » Elle n'est ici que d'hier, mais je la vois dépérir d'heure en heure. Nous la soignerons de notre mieux, la pauvre petite que Louise aime si tendrement. » Si Madame la douairière Miserlet se faisait coiffer avec une recherche inusitée, si, en face de son grand miroir de toilette, elle retouchait elle-même, du bout des doigts, les boucles blanches qui encadraient sa bienveillante figure, si elle ajustait plus correctement les plis du fichu de dentelle retenu sur ses cheveux par trois grosses épingles d'améthyste, encore une des idiosyncrasies de cette grand-maman, elle ne pouvait endurer un chapeau et on ne la rencontrait jamais que la tête encapuchonnée d'une dentelle abritée sous un grand parasol blanc, c'est que Madame Miserlet, pour l'amour de Ferdine, se préparait à une expédition fort insolite, aventureuse même, car elle ne descendait pas trois fois par an des hauteurs de Château Pointu. Cette digression fort longue, en une phrase très compliquée mais correcte cependant, du moins je l'espère, a pour seul but de vous ramener dans l'allée de gravier bleu, devant la porte du pavillon décrit ci-dessus, et de vous expliquer la présence de la douairière sur ce sol étranger. Elle porte, comme pour une cérémonie, sa plus belle robe de satin noir, le mantelet de faille épaisse garni de superbes guipures, qu'elle appelle son camail, et comme elle est mince, droite, fort digne dans son attitude, elle a l'air, avec la dentelle qui couvre ses cheveux blancs, d'une grande dame des bords du Tage. Ferdine, dans son grand deuil, et Louise, toute rouge d'émoi, se tiennent à ses côtés, tandis qu'un jeune homme fort poli, à demi incliné, leur indique l'entrée des bureaux. Il traversait la pelouse au moment où ces dames s'avançaient vers la grille intérieure, après avoir hésité quelques instants dans la cour de la fabrique. « Veuillez nous dire où nous pourrons trouver M. Escandier ?» demanda Mme Miserlet. « Mon père est en ce moment dans les ateliers, mais ma mère est chez elle et sera très heureuse de vous voir, madame, car je crois bien que c'est à Mme Miserlet de Château Pointu que j'ai l'honneur de parler, » dit le jeune homme poli avec une aisance qui terrifia Louise. « Vous ne vous trompez pas, mais qui donc êtes-vous, jeune homme charmant et courtois ?» Et Louise, qui savait combien les grandes occasions inspiraient son aïeul, fut reconnaissante de ce qu'elle n'avait pas parlé en vers. « Eugène Escandier, madame, je suis revenu de Londres il y a 2 mois à peine et je n'ai pas encore eu le privilège de vous rencontrer. Permettez-moi, mesdames, de vous accompagner chez ma mère. » Et il étendait la main vers la maisonnette élégante qu'on entrevoyait derrière les arbres. « Non, non, » dit Madame Miserlet. « Nous venons pour affaires et nous avons même une peur affreuse de ne pas savoir comment nous comporter. Les affaires nous sont terriblement étrangères. Conduisez-nous au bureau de votre père. » Cela commençait à rimer. Louise se sentit fort inquiète. Quelques instants plus tard, elle se trouvait assise à côté de Ferdine sur un divan de cuir noir, Madame Miserlet dans un fauteuil rond près de la petite cheminée où brûlait une bûche solitaire, et M. Escandier, le directeur, entrait. « Je vous présente votre jeune secrétaire, cher monsieur, » dit Madame Miserlet en désignant Ferdine. « Songez à sa jeunesse, faites-lui la tâche aussi douce que possible et donnez-lui de temps en temps un après-midi pour venir prendre le thé avec nous. Je désire également, comme hygiène, qu'elle puisse à chaque heure se délasser en faisant un tour de jardin. » On dit qu'il est fort préjudiciable à la santé de rester assis plus d'une heure sans bouger. Le directeur songea aussitôt « Je regrette d'avoir engagé cette jeune fille. Cela me procurera des conflits avec Mademoiselle Miserlet qui n'entend rien à la vie réelle. » Mais il regarda Ferdine. Il lui trouva un air intelligent et sérieux et elle eut, au même moment, levant les yeux vers lui, un petit sourire qui semblait dire « Ne craignez rien, je comprends, moi, les exigences du travail. » Il pria ces dames de faire avec lui le tour des bureaux. La petite pièce aux meubles sévères et confortables, où il y recevait, était son cabinet particulier. On passa dans une salle assez grande, boisée en brun clair, occupée par plusieurs pupitres, par de hauts casiers pleins de registres à dos vert. 3 comptables, 2 jeunes et 1 vieux, écrivaient assidûment et levèrent à peine les yeux quand la petite société entra. M. Escandier jeta sur eux ce regard rapide et scrutateur du patron qui discerne même sous les apparences la moindre infraction à la règle. Au milieu de la paroi qui faisait face au pupitre était suspendue dans un cadre de bois noir et poli une grande pancarte blanche dont le titre « Règlement » se lisait de loin. Ferdine pensa au règlement si mal obéi de Mademoiselle Caton. Elle ne put s'empêcher de sourire et de soupirer à la fois. M. Escandier lui montra ensuite son bureau à elle, une toute petite chambre que remplissait presque entièrement une grande table de noyer. Dans un coin se trouvait la boîte d'acajou d'un téléphone avec ses cordons verts et ses cornets. Sur un guéridon de fonte bronzée, près de la fenêtre, la presse à copier, et dans un casier bien rangé en ordre, la série des copies de lettres. La machine à écrire était placée sur la grande table. Ferdine jeta un coup d'œil à ses boutons compliqués, disposés en éventail, et se dit « Jamais je n'apprendrai à jouer de cela !» À l'autre bout de la table était rangé une écritoire, un petit bateau de laque plein de plumes et de crayons, des presse-papiers et, contre le mur, dans une foule de petites niches, des liasses étiquetées. Ferdine regarda par la fenêtre qu'encadrait une austère draperie de damas brun. Elle vit la pelouse, les trembles vert pâle, un grand coin de ciel d'un bleu très doux, souriant et comme un peu triste. Elle regarda ensuite Louise. Un saisissement les prenait toutes deux. Travailler tous les jours, du matin au soir et toute seule, dans cette petite chambre bien gentille, mais si étrangère. Ferdine se demandait s'il lui serait permis d'apporter deux ou trois photographies bien chères, son père, Siméon, Louise, et de les placer autour d'elle, sur cette grande table, pour leur adresser de temps en temps un sourire et une pensée. Et ces fleurs, était-on coutumier d'avoir quelques brins de réséda, quelques œillets dans un petit cornet de cristal à côté de sa machine à écrire? Louise se disait « Je lui ferai un essuie-plume et je lui donnerai mon beau coupe-papier en jade incrusté d'or afin qu'il y ait quelque chose de joli sur cette vilaine table. Je lui ferai aussi une belle corbeille à papier toute drapée en peluche avec des pomponnettes de soie. Je demanderai à grand-maman cette peau de chèvre du Tibet que Françoise met au camphre et bat chaque printemps sans qu'on s'en serve jamais. Ainsi, le cabinet de ma pauvre Ferdine finira par être habitable. » Fort heureusement, M. Escandier, tout perspicace qu'il fût, ne pouvait deviner ses pensées, car il eût dit très probablement « Mesdemoiselles, un bureau n'est pas un boudoir. Gagner sa vie n'est pas une amusette. Nous ferons mieux d'en rester là. » Et il eût cherché une jeune personne plus sérieuse pour jouer de sa machine à écrire. Mais, au contraire, le silence de Ferdine le frappa favorablement. Il aimait les gens qui savent se taire. L'entrée en fonction fut fixée au surlendemain et les heures de travail de 8h du matin à midi et de 2h à 6. Le cœur de Ferdine défaillait un peu. Elle n'avait pas été accoutumée à une assiduité si longue. Sa main chercha celle de Louise et échangea avec elle un petit serrement bref qui ressemblait à une exclamation muette. Une singulière impression, celle d'être l'héroïne à moitié fictive d'une histoire qu'elle lisait au lieu de la vivre, la brume vague d'une sorte de rêve, la crainte de se réveiller, car le rêve lui apparaissait intéressant, un mélange d'émotions réelles et de curiosité, comme s'il se fût agi d'une autre personne, l'enveloppait, gênant sa parole et ses mouvements. Quand elle traversa la pelouse, quand elle monta derrière Madame Miserlet qui avait pris le bras du directeur, les degrés de la véranda qu'abritaient des stores rouges et blancs, quand elle vit une dame et plusieurs jeunes filles se lever pour les accueillir et qu'il y eut beaucoup de paroles, toutes bienveillantes, et des tasses de thé sur les tables volantes tressées en osier fin et des ouvrages de broderie que Madame Miserlet admira et des questions adressées à elle, Ferdine, directement, cette sensation confuse d'un songe ne fit que s'accroître. Louise ne disait pas grand-chose. Ferdine devina qu'on les trouvait toutes deux un peu idiotes, mais cela lui était parfaitement égal. Elle se disait, toujours comme si elle lisait un livre, « Un jour ou l'autre, on découvrira bien qu'elles ne sont pas idiotes. » Cependant, elle trouva plus tard, dans sa mémoire nettoyée de cette confusion des premières heures et de l'émoi, une image parfaitement nette de Madame Escandier et de ses quatre filles, et même une opinion à l'égard de chacune d'elles, surtout de l'aînée qu'elle avait entendu appeler Lucienne, qui était peu jolie, même laide et fort sarcastique. C'était la seconde, Jeanne-Marie, qui avait interrompu un instant pour la présentation cette broderie en canetier d'argent et en soie de toutes les nuances des feuilles d'automne sur un fond vert d'eau que la douairière avait admiré. C'était Idonie qui avait une longue taille mince, haut si mince, et de longues mains transparentes, et des yeux noyés de rêverie, et de petits tressaillements quand on lui parlait. La dernière, Julotte, était certainement une bonne fille, pratique et obligeante. Elle avait couru chercher un tabouret à pied pour Madame Miserlet, et ce fut elle qui servit de thé.